There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique NoWatch.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Nous sommes en décembre 2011 et c'est un épisode spécial le web. Bonjour à tous et bienvenue sur ce numéro spécial du Rendez-vous Tech, c'est l'épisode 75. Et comme promis dans l'épisode précédent, nous vous faisons un épisode spécial le web, qui est doublement spécial parce que c'est en fait une série de deux vidéos que nous avons fait le premier et le deuxième jour du salon, en vous détaillant tout ce qui s'y est passé même. Je m'en mêle un peu les pinceaux, je suis tellement enthousiaste. Donc on a Jérôme, Corben, Jeff et moi-même qui vous faisons un petit résumé en deux parties. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu en vidéo sur le site, sur nowatch.net. Si c'est le cas, eh ben écoutez, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter cet épisode parce que c'est exactement la même chose. Par contre, que ce soit le cas ou pas, pensez à repasser sur le site parce qu'il y a quelques petites vidéos supplémentaires qui, je pense, pourront vous intéresser et notamment un test assez approfondi de la Surface 2, la table de Microsoft, la table tactile de Microsoft. Et voilà, donc il y a des petites choses intéressantes en plus de ce dont on va vous parler ici. Mais quoi qu'il en soit, deux résumés de 45 minutes de la première et de la deuxième partie du salon, disponibles tout de suite maintenant dans le Rendez-vous Tech. Donc j'espère que vous apprécierez ce numéro un petit peu spécial. Et puis on se donne rendez-vous dans une semaine à peine en fait, bon un petit peu plus, une dizaine de jours, pour le prochain épisode normal du Rendez-vous Tech. J'espère que vous apprécierez celui-ci et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le site pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, bonne écoute et à très vite. Ciao.
No Watchers, No Watchers, nous sommes ici à Le Web. Je suis accompagné de la fine fleur du podcast et du blog francophone. Donc j'ai ici Patrick Béja et ici Corben. Corben, c'est une des premières fois que les No Watchers te voient à l'image. Donc c'est un grand moment là qu'on vit.
Ouais, à part dans quelques vidéos privées, je suis passé sur Geek Inc aussi avec,
c'est
avec
vrai,
Cédric.
C'est vrai, Geek Inc c'est des vidéos privées. Hein.
Ouais, mais c'était plutôt soft, mais c'est sympa, ouais. Mais voilà, c'est le seul podcast NoWatch que j'ai fait en vidéo.
Bon, on n'est pas là pour déconner, hein. On est là pour parler de le web, c'est sérieux, c'est un salon B2B, je veux dire, attention, business. On a vu plein de choses intéressantes, certains d'entre vous, c'est de la pub hein, ça. Attention. Hein.
Mais tiens, oui, on a vu plein de choses intéressantes. Avant de se lancer dans les choses intéressantes qu'on a vues, peut-être expliquer à ceux qui connaissent pas le web ce que c'est.
Exactement.
Donc je vais le faire.
Eh ben vas-y.
Ok. En fait, le web c'est une conférence qui a commencé il y a quelques années, qui est organisée par Loïc Lemeur, que la plupart d'entre vous connaîtront, j'imagine, qui s'appelait au tout départ, c'était pas le web au tout début, c'était les blogueurs ou un truc comme ça. Les blogs, voilà.
Les blogs.
Il y a une dizaine d'années. Et c'était un tout petit truc où ils étaient 200 à Paris. Et aujourd'hui, donc, ça a énormément grandi. Là, c'est alors, c'est pas un salon grand public, hein. Certains s'étonnaient, par exemple, du prix du billet qui est d'autour de 2000 euros.
2300 pour être exact.
Ça augmente chaque année.
Quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un salon pour professionnels. Et l'une des choses qui est intéressante, c'est que c'est à ma connaissance le seul salon de ce type en France, parce que c'est un salon qui est plein d'invités de la Silicon Valley américains, qui vont se rencontrer et qui vont surtout rencontrer des investisseurs et surtout des entrepreneurs, des startups européennes et françaises. Et donc c'est un moment un petit peu d'effervescence où toute la blogosphère et la tweetosphère qu'on suit un petit peu tous si on s'intéresse à la Q-Tech
américaine va rencontrer la twittosphère et la blogosphère française, des gens comme au hasard MJ Sigler, Ben Parr était là,
Kevin
Robert
Rose.
Scoble,
Rose.
Kevin Rose, tout à fait, Léo Laporte et Tweet, etc. Donc voilà, c'est vraiment une occasion de vivre un salon qui n'existe pas, à ma connaissance, en France sous cette forme.
Une des preuves, quand même, parce que cette année, je crois qu'il y avait un regroupement quand même d'invités un peu prestigieux, et il y a eu un nombre de lancements même ce matin, que ça soit Flipboard sur iPhone, etc. Ce qui prouve que ce salon est en train de devenir un salon important dans le monde du tech. La preuve en est, c'est que voilà, des boîtes lancent leur app pour le web, quoi. On va vous parler de certaines. Certains n'ont peut-être pas suivi le live ce matin de le web parce qu'il y avait quelques petits problèmes de Wi-Fi. Alors Corben, dis-nous, c'est toi ?
Non, c'est pas moi qui l'ai piraté. J'avoue, mais je pouvais le faire, mais je l'ai pas fait.
Oui,
on garde les verres d'eau. Merci beaucoup. Ah non, on les garde pas alors.
Ah, d'accord.
Vous voulez dire un petit mot, les
caméras ? D'ailleurs, excellent catering hein, au web.
Oui, c'était les petits sandwichs étaient très bons,
délicieux. Ouais, donc effectivement, ce matin, il y avait des petits soucis avec le Wi-Fi, ça arrive de temps en temps.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on disait ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ?
Qu'est-ce qu'on a vu ?
On va dire qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant.
Chantal
Goya.
Parce que
si on dit tout ce qu'on a vu, on en a pour 3 heures.
C'est vrai.
Le truc qu'on a noté.
D'abord,
on va parler de ce matin. Parce que c'est la première app qu'on a découvert avant même d'arriver au web, c'est Uber. Alors, Patrick, c'est toi qui me l'as fait découvrir, donc parle-nous un peu d'Uber.
Alors, Uber, c'est pas H-U-B-E-R-T, c'est U-B-E-R
comme Uber en allemand.
Uber, voilà, avec un.
Uber,
sans le umlaut.
Ouais.
C'est en fait une application qui, là encore, a été lancée avec le web aujourd'hui. Qui est en fait plus qu'une application, c'est un service qui existait déjà dans certaines villes américaines comme San Francisco et New York et qui arrive à Paris directement. Donc assez rapidement, ils ont importé le concept en France et c'est un concept vraiment intéressant, vraiment intelligent et qui a eu un avenir à mon avis. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un service qui est promis à un bel avenir.
On attend surtout de savoir ce que c'est exactement.
Alors, ce que c'est... Merci.
C'est génial, mais on attend.
C'est Corben bon, qui utilise le fouet. Je lui ai prêté. Donc, c'est un service qui met en relation des utilisateurs finaux et des voitures de maître presque.
Des voitures avec chauffeur, oui, c'est des voitures avec chauffeur, Mercedes, machin et tout.
Donc ça fait une sorte de concurrence au taxi. Et la manière dont ça fonctionne...
Non, mais je donnerai mon avis après.
Voilà, on va développer. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est que vous téléchargez une app, vous créez un compte avec votre numéro de carte bleue et... Une fois, vous vous connectez à cette app avec votre compte et vous vous géolocalisez. Quand vous avez besoin d'aller quelque part, vous vous géolocalisez et vous dites « j'appelle une voiture ». Ça vous montre où sont les voitures. Certaines, évidemment, vont a priori être assez proches de là où vous êtes. Vous dites « je commande une voiture ». Ça va vous dire quelle voiture vient vous chercher et ça va vous dire à quelle distance elle est de vous. Une fois qu'elle est arrivée, ça vous donne un délai hein, en minutes, vous pouvez continuer à la suivre, voir quand elle arrive sur le petit plan, c'est géolocalisé bien sûr. Une fois qu'elle arrive, vous descendez de votre appartement, vous sortez de l'appartement par exemple, de la maison,
du web.
Oui, sémantiquement c'est le web. Et vous rentrez dans la voiture, vous allez là où vous vouliez aller. Et ensuite, vous êtes facturé directement sur votre carte bleue. Il n'y a pas d'échange d'argent direct dans la voiture.
Ça, c'est pratique parce qu'entre les taxis qui ne prennent pas la carte bleue, ouais. Jamais de monnaie.
Exactement.
C'est top.
Et donc, l'opération se fait comme ça. C'est évidemment plus cher qu'un taxi, avec un petit bémol parce que le taxi, lui, va vous facturer le temps qu'il lui faut pour arriver jusqu'à vous, alors que les voitures Uber... ne le font pas. Elles vous facturent du moment où vous rentrez dans la voiture jusqu'au moment où vous en descendez. Donc ça coûte quand même malgré tout un peu plus cher. On parle de 75% de plus qu'un tarif de taxi. Donc
c'est quand même. Les taxis déjà, faut y aller hein, au niveau tarif.
Bien sûr.
Ça dépend les taxis de nuit et tout. Bon,
ça dépend. Et donc voilà, et c'est un système qui évidemment est un service un petit peu premium parce que votre voiture est de meilleure qualité, plus jolie, plus classe que une voiture un taxi a priori. Hein, c'est une certaine classe de voiture. Et puis surtout, au-delà de ça, c'est un service qui vous apporte pour la valeur ajoutée, enfin pour le tarif plus élevé que vous allez payer, la valeur ajoutée qui est le confort et le luxe, on peut le dire.
Mmh. En gros, j'ai discuté un petit peu avec le chauffeur, donc il m'a amené, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on l'a testé en démo, hein, on peut pas se payer ça, le chauffeur,
en fait, pour le lancement, Uber a pour le lancement au web donné à un certain nombre de participants au web le service gratuit pendant les 3 jours.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai discuté moi un peu avec le chauffeur parce que je voulais voir l'autre côté de la façade, machin. Alors Uber, l'appli, c'est vrai, elle est géniale et je pense que ils vont vraiment trouver un créneau entre le taxi et la voiture avec chauffeur. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus cher qu'un taxi pour des trajets que vous avez prévus. Par contre, ils se lancent à Paris et je pense que c'est pas un hasard. Tout le monde connaît à Paris les problèmes qu'il y a de taxi pour en trouver à certaines heures. Et moi, je pense aussi aux entreprises. Parce que le fait que tu puisses mettre, par exemple, tous tes employés sur une carte bleue et recevoir une facture à la fin du mois de tous les déplacements Uber avec leur géolocalisation. Donc, tu n'auras pas de petits malins qui vont aller se payer le taxi pour aller au Rex danser et te mettre ça sur réunion de travail, machin. Non, mais je plaisante, mais c'est ce qui arrive parfois avec les notes de frais. Là, ça permet d'avoir... et puis, je pense qu'à fur et à mesure, tu auras peut-être des tarif dégressif pour les entreprises. Je pense que c'est vraiment un service pour les pros. Et une autre utilisation à laquelle j'ai pensé, c'est quand vous voulez faire les choses un peu classe sur Paris. Aller chercher votre copine, l'amener à dîner, faire les choses un peu bien, aller chercher vos parents pour Noël. C'est une belle voiture, le mec il est bien habillé. C'est comme si on avait une voiture avec chauffeur. Mais quand on connaît les prix des voitures avec chauffeur, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une voiture avec chauffeur.
Et voilà. En plus, alors d'autres utilisations, par exemple, vous arrivez dans une nouvelle ville que vous connaissez pas, vous utilisez cette application. Bon, faut avoir une connexion web, hein, bien sûr, mais c'est hyper pratique et c'est hyper bien fait. C'est l'un des principes souvent pour les services premium, c'est la facilité. Et là, c'est tellement simple que je pense que on sort d'un bar à 2-3 heures du matin, il y a pas de taxi comme tu le disais, t'es un petit peu machin, tu fais ton appel sur Uber. Et il se place effectivement entre les taxis et les voitures de maître parce que, bon, tu vas pas le faire tous les jours, à moins que tu sois plein aux as. Mais une fois de temps en temps, ça va te coûter un petit peu plus cher, mais ça peut valoir le coup, quoi.
Donc, un truc, si vous voulez installer, parce que moi ce matin, je l'ai testé et Patrick m'a arrêté au dernier moment. C'est-à-dire que ça, c'est tellement simple qu'en un clic, on se retrouve avec un bouton appeler, enfin commander, ouais. et on a envie de tester, mais il n'y a pas d'avertissement. Attention, si vous cliquez, la voiture arrive.
Il n'y
a pas de confirmation
fois,
de changer de chose. C'est vraiment direct.
Il y a une confirmation en fait.
Ah, d'accord. Ouais. J'ai pas osé, mais du coup, j'étais à deux doigts d'appeler le taxi alors que j'avais rien à faire du taxi. Enfin,
moi, hier, en la testant, je croyais qu'on pouvait donner l'heure, tu vois. Donc, je l'ai testé hier soir à 2h du matin et le mec, j'arrive. Mais heureusement, et ça, c'est un des avantages, t'es en contact téléphonique direct avec la voiture. Donc, j'ai appelé le mec, je lui dis, je me suis emmêlé les pinceaux, venez pas. Il m'a dit, pas de problème.
Ouais, voilà. Très pratique. Donc, une fois que t'as sélectionné ta voiture, tu as le nom du chauffeur, la localisation de la voiture qui reste, et si tu veux appeler le chauffeur, tu peux déclencher l'appel et ça se fait tout seul.
Alors comment ça marche comment ils ont, enfin c'est un peu plus cher que le taxi, mais c'est moins cher que les voitures de loc. Comment ça se passe
Alors en fait, là j'ai demandé oui au chauffeur. En fait, les chauffeurs font partie généralement déjà de sociétés de voitures de maître et ça leur fait un complément. Aujourd'hui, Uber ne permet pas de vivre uniquement d'Uber. C'est plus pour leur temps. Non, il m'a dit. Mais ils veulent y arriver.
Ils veulent y arriver. Et le CEO qui parlait ici disait que certains de leurs chauffeurs, parce qu'il est possible aussi, si vous par exemple vous êtes chauffeur et que vous avez une voiture qui rentre dans leurs critères, visiblement il est possible de s'inscrire en indépendant aussi.
Ouais, ouais.
Et il y en a certains qui font ça en plus d'autres choses et que bon, ça peut quand même.
Ça peut. Mais
je pense que c'est vraiment appelé à se développer.
C'est vraiment pas un hasard s'ils se lancent à Paris avec les problèmes des taxis pirates et
c'est
tout.
Sûr.
Il y a un vrai créneau à prendre. S'ils viennent comme ça sur Paris, c'est pas
c'est
un hasard.
Je reprends celui-là, c'est bien. D'ailleurs, une bonne idée, une appli comme ça, rien que pour les taxis pirates, ça pourrait marcher. Les taxis clandestins, voilà, c'est top.
D'ailleurs, je me demande si les taxis et je sais pas si c'est une guilde ou des syndicats de taxis vont pas avoir quelque chose à dire là-dessus, parce que, évidemment, la raison pour laquelle on parle aux gens qui ne connaissent pas super bien Paris, la raison pour laquelle il y a tellement peu de taxis à Paris, c'est que les licences de taxis sont en nombre limité. Et ça coûte très très cher. Et il y a des gens qui économisent pendant 20 ans pour se payer une licence de taxi. Et bien sûr, voir ce type de service arriver qui leur fait une concurrence, même si c'est pas exactement le même créneau, je pense qu'il y en a qui vont faire la gueule.
Bah, il m'a dit le chauffeur, ils font la gueule. Ouais. Et notamment devant les grands hôtels où, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais si vous avez regardé certaines émissions d'une chaîne où il y a un 6, où il y a des envoyés un peu spéciaux, on voit qu'il y avait du graissage de pattes, des concierges, machin, et ça, c'est tout un business qui va disparaître avec ce type de service, quoi.
C'est, oh,
donc,
disparaître,
ils sont
peut-être
pas très
pas,
contents.
Mais,
ouais.
Mais d'un autre côté, quand on voit la facilité d'utilisation du service en question, on se demande pourquoi les sociétés de taxi ne font pas ça.
Ah, mais c'est clair.
Que ce soit les G7, les taxis bleus, machin, tout ça, c'est vraiment surprenant que ça ne soit pas aussi simple.
Ils ont des applis, hein, pour
bien
appeler
sûr.
Et tout ça.
Bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça.
Non, non.
La zone que vous avez demandé.
Oui, ouais, c'est
donc,
vrai.
Bref, voilà, ça c'était notre petit résumé sur Uber, qui est un truc, une application qui sort un peu de nulle part, parce que c'est pas le genre de truc auquel on est habitué pour ce genre de choses. On se dit plutôt oui, les trucs de réseaux sociaux. Là, c'est vraiment un truc qui a une application très pratique et qui a séduit à peu près tout le monde. Donc voilà, c'était pour Uber.
Un petit mot sur Karl, ce qu'on a vu ensuite.
Un petit mot de Karl.
Bien sûr. Alors une surprise. Bon, une surprise qui n'en était pas une. Il était au programme. Karl Lagerfeld était le keynote speaker donc la première conférence à le web. Donc le premier jour aujourd'hui. Et quand Loïc est arrivé et qu'il a présenté donc Karl Lagerfeld, qui n'a pas vraiment besoin d'introduction, pour ceux qui ne savent pas, c'est le designer à succès de Chanel, Fendi, tout ça, qui n'y travaille plus d'ailleurs, il lance sa propre marque maintenant. Je me suis dit, mais que vient faire ce monsieur dans la conférence Le Web, dans l'univers du tech?
Ouais.
C'est vraiment... c'est vrai, je craignais qu'il ne tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai été très très surpris dans les 5-10 premières minutes d'être totalement séduit par ce monsieur. Parce que non seulement il était très drôle, mais en plus... Il a, à sa manière, bien sûr, il est excentrique, mais il a une véritable relation avec la chose technologique.
Ah oui.
Il nous a présenté, par exemple, il a ouvert sa petite sacoche et il a montré qu'il avait 4 iPhones avec des couvertures différentes sur le dos, qu'il reconnaissait donc chacun indépendamment, et il donne certains numéros de téléphone à certaines personnes. Donc quand tel téléphone sonne, il sait s'il veut répondre ou pas, parce qu'il va savoir de quel groupe il s'agit.
Ouais, c'est quand même... il est super organisé, il classe bien. Nous on pourrait, enfin moi pour ça j'ai des softs, hein. C'est-à-dire je fais des groupes, voilà, je sais quel groupe d'amis a le droit de m'appeler à certaines heures, machin.
C'est ridicule, il pourrait faire
et
ça.
Lui,
avec
lui il s'emmerde pas, et il prend, il a 4 téléphones. iPhones, il a aussi des iPods, hein.
Des iPads. Il a dit qu'il avait une vingtaine d'iPads et en fait il s'en sert comme des carnets de croquis, donc c'est limite s'il jette pas son iPad. Bah,
c'est comme ces gens qui achètent, qui font des photos numériques et qui stockent les cartes SD sans jamais les effacer, comme des pellicules en fait.
Voilà, sauf que lui il le fait avec des iPads. Il a des iPods sur lesquels, alors des iPods nano, plusieurs, qu'il remplit. Il met la musique qu'il aime pour telle année par exemple, ou telle époque, ou telle saison, je sais pas, et il les stocke. Et donc il a 4-5 iPod nano avec
avec les hits du moment, voilà. Avec autre chose,
donc bon, c'est comique, c'est un petit peu ridicule en même temps pour des gens qui savent comment ces bestioles là marchent. C'est vraiment un gâchis, oui, une excentricité,
ouais,
mais en même temps ça veut dire, voilà, non mais c'est vrai, complètement, mais en même temps ça veut dire qu'il est
fond cette carte là genre j'ai du pognon et je vous emmerde, c'est un peu... Mais c'est Karl,
c'est son personnage. Son
on ferait tous pareil.
Oh bah bien sûr.
Bon, moi j'ai plein de pognon. J'en ai plein et je vous emmerde.
Mais non, mais ça veut dire concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il est vraiment adepte de ce genre d'outils, quoi. C'était authentique, quoi. Voilà.
Il nous a fait quand même une démo de son iPad où il a quand même bien galéré à servir de son stylet, servir du truc. On a vu toutes ses photos perso aussi. Il a fait défiler toute sa galerie. Voilà, vu quelques photos un peu osées, hein, je dois le dire quand même.
Oh, on a rien vu.
Non,
arrête,
je plaisante.
C'est pas vrai. mais voilà. Donc, et bien sûr, il était là aussi un petit peu pour faire sa promo, puisque il va lancer avec son partenaire qui est la société Net-à-Porter, qui fait aussi Monsieur Porter, la marque Karl, qui est la première marque de haute couture, ou pas basse couture, mais moyenne couture peut-être, lancée sur le net directement, qui s'appelle Karl, uniquement en ligne.
On peut acheter les vêtements que sur le web.
Designé par Karl Lagerfeld. Bon, alors, la majorité d'entre vous est sans doute des hommes, ça vous intéressera peut-être un peu moins, mais pour les copines ou les femmes qui nous regardent,
ou les hommes qui aiment se déguiser,
on a le droit de faire des cadeaux hein, aussi.
Aussi,
ou les hommes qui aiment se déguiser.
Boutique No Watch. Ou les hommes qui aiment se déguiser. L'exemple qu'il donnait, c'était par exemple une veste à 150 pounds, donc 180 euros, pour un truc Karl Lagerfeld. C'est sympa et c'est entièrement en ligne. C'est une initiative intéressante à surveiller.
Il y a que du S, hein, je pense, non? En taille.
On va passer à la suite. Moi, j'ai quand même retenu une chose qu'a dit Karl et qui s'adresse, je pense, à tous les entrepreneurs, parce que et qui était intéressante, c'est-à-dire lutter contre le banal. Il a cité Lady Gaga, c'est la lutte contre le banal. Et je pense que c'est un message assez fort qu'il a passé, mine de rien, parce que je pense que pour toutes les startups et tout ça, on a tendance à vouloir refaire des modèles déjà existants et rassurants. Et non, lui, c'est oublier hier et lutter contre le banal.
C'est un créateur, c'est un vrai créateur, quoi, c'est vrai.
Ouais, donc bon, moi je pensais pas ressortir de le web et avoir une opinion aussi positive de Karl Lagerfeld que finalement je connaissais
pas. Oui, en plus il est drôle, il a clashé deux fois Loïc, c'était marrant. Oui, mais... il a
joli clash sur Loïc.
C'était assez marrant. Ouais. C'était marrant. Il y a de l'humour.
Ouais, ouais. Alors la suite, qu'est-ce qu'on a vu ensuite?
Flipboard, on va passer rapidement, mais
alors Flipboard, je vais laisser Jérôme parler parce que c'est un petit peu ça.
C'est une de mes apps chouchou. C'est vrai que Flipboard, on a à profiter du web pour lancer son appli iPhone ce matin. Si vous avez peut-être déjà vu les démos, mais on va remettre un extrait de comment fonctionne Flipboard sur iPhone. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ils l'ont développé. C'est pas juste une adaptation du Flipboard qui est déjà magnifique. Moi, c'est mon app préférée sur iPad. Là, ils ont pensé autour de l'iPhone, un téléphone, qu'est-ce qu'on a envie de voir, comment on veut consulter. Donc, c'est bien foutu, c'est innovant. C'est vrai qu'il faut réapprendre un geste. Il y a ce geste d'ouverture
On va de bas en haut au lieu d'aller de droite à gauche. C'est pas non plus...
Oui, mais quand même, ça perturbe nos habitudes.
Ça perturbe les petits vieux, quoi.
Ouais. Voilà, donc ça me perturbe.
Jérôme est un peu perturbé.
Ouais, ok, ça c'est bon. ça c'est fait. Non, ce qui a été intéressant, parce que ça va nous amener au débat qu'on va avoir à la fin, il a dit une chose, parce que Loïc a essayé de le tacler en lui disant « Et vous sortez quand sur Android ?» Et là, il a fait un peu « Ça va venir, on sait pas, machin. »
Il aurait pu dire en même temps qu'Instagram, non?
Bah oui, non mais honnêtement, mais c'est un peu le truc. On rebondit très rapidement quelque chose que Kevin Rose avait dit sur Oink il y a 3 semaines, c'est que le problème aujourd'hui des apps Android, c'est qu'il y a 10% de super geeks qui adorent Android, qui téléchargent toutes les apps et qui sont à donf. Donc Kevin Rose par exemple a envie de développer pour eux, mais il dit il y a aussi toute une clientèle d'Android qui est très grand public, qui a acheté les téléphones parce que c'est moins cher qu'un iPhone, mais qui télécharge pas d'app. Donc c'est vrai que les développeurs retardent un peu le développement, parce que c'est des trucs qui coûtent cher de développer sur une autre plateforme, des grosses apps, on a l'impression qu'ils retardent. Si j'ai abordé le truc, c'est qu'on va revenir derrière sur ce qu'a dit Eric Schmidt par rapport à ça, d'une conférence qu'on a vue dans l'après-midi. Sinon, le matin, on a vu autre chose en musique que toi.
Sound tracking.
Donc
fini sur Flipboard.
Oui, Flipboard, oui. La démo, c'est top.
En fait, Sound Tracking, c'est une app que j'aime beaucoup, dont j'avais déjà parlé dans Upload, qui est... Tiens, d'ailleurs, je vais faire un tout petit aparté pour dire à quel point il est surprenant de voir que l'ensemble de la conférence est centré sur la mobilité. C'est d'ailleurs le thème de la conférence,
Solo.
C'est mobilité sociale et locale.
Ouais.
Et c'est vrai que même quand on parle de plateforme web, on en parle à travers la mobilité et les apps. Et on parle presque plus des applications de desktop, des ordinateurs de bureau classiques, quoi. Donc c'est vraiment une tendance hyper hyper forte qu'on voit depuis quelques années, mais là elle est encore plus visible. Donc Sound Tracking, c'est une app qui est un petit peu le Instagram du son, le Instagram de la musique, qui est simplement quand vous écoutez un morceau, vous pouvez l'identifier par cette application et partager ce morceau sur Twitter et Facebook et sur le réseau Instagram lui-même bien sûr. Et vous allez pouvoir aujourd'hui, avec la nouvelle version du logiciel qui arrive sur Android, donc Sound Tracking sur Android,
une excellente application gratuite.
Oui, alors l'application elle-même est gratuite. Et ensuite, ils ont des partenariats. Enfin, j'imagine sur sur iOS que quand vous achetez le morceau, il passe par le système d'affiliation d'iTunes et donc il récupère une partie puisque vous pouvez facilement acheter le morceau. Sur Android, ils ont un partenariat avec Spotify et donc vous pourrez, contrairement à iOS où vous ne pouvez écouter que 90 secondes du morceau parce que c'est l'extrait sur iTunes, sur l'iTunes Store, sur Android, vous pouvez écouter le morceau en entier puisque d'accord, c'est le partenariat avec Spotify.
Mais c'est-à-dire donc, que c'est il y aura de la pub, des choses ça, c'est Spotify, il faut quand même faut payer à la base pour accéder au morceau.
Alors, il faut payer quand on veut accéder au morceau sur la version mobile. Sur la version non mobile, on a un quota auquel on peut d'accord, accéder sans. Alors, je sais pas s'il faut rentrer les informations de notre compte Spotify pour que ça compte.
Faudra tester,
c'est
ouais.
Bon, il faudra tester, mais en tout cas, pour la plupart des gens, pour un nombre très raisonnable de morceaux, ça sera a priori gratuit et je pense sans pub parce qu'il y en a pas sur
c'est bien,
iPhone.
C'est bien.
Donc c'est une très très bonne application. Elle sort sur Android, je vous la recommande à tous. Moi, je l'utilise très régulièrement. Il y a pas énormément de gens qui l'utilise par rapport à d'autres applications comme Instagram par exemple, mais elle a vraiment vraiment une grosse utilité pour les fans de musique et moi je la trouve très très bonne. Donc voilà.
On va peut-être passer au gros débat, on va dire, parce que c'est vrai que à 14h donc Eric Schmidt, ex-CEO de Google. Ah, tu voulais
ouais,
parler
juste
d'autre
un
chose
autre
avant.
Truc pour dire que Kevin Rose était présent pour présenter Oink dont Oink. On a parlé, donc on va pas en reparler, mais c'était assez sympa de voir Kevin Rose et Léo Laporte et Sarah Lane, les fans de podcast anglophones et américains les connaîtront.
C'était même presque émouvant parce qu'on sait que c'est la fin de Dignation, il y avait
voilà. Donc il était là aussi.
On lui a serré la main, hein, Kevin.
Oui, tout à fait. On lui a serré la main, mais on n'a pas eu de reportage. Parce qu'il partait toujours en avion.
Et donc, effectivement, c'était sympa de voir Kevin Rose ici, et ça montre aussi à quel point le web est en fait important, se positionne en conférence importante à Paris et en Europe, parce que tous ces cadors de la technosphère technophile américaine sont quoi. Donc voilà.
Francophone. N'oublions pas, parce que on a rencontré plein d'amis suisses, belges et tout. Faisons pas du franco-français.
Le gros morceau de la journée.
14h, donc après les petits fours. C'était bon, hein.
Très bon.
Ouais. On est donc allé voir Eric Schmidt. On va dire qu'il y avait deux parties. Il y avait déjà la présentation, ça tu vas peut-être pouvoir nous en parler, du sandwich à la glace. Qu'ils ont réussi à faire rentrer dans un téléphone, si j'ai tout bien compris, c'est ça.
Exactement.
Quand même.
C'est ça. Non, mais j'ai vu ça. J'avais pas encore bien vu Ice Cream Sandwich. Et là, il y avait une vraie démo. Et c'est vrai, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, les retours que j'en avais eu moi sur le net de gens qui ont acheté le dernier.
Pour ceux qui savent pas, je pense pas qu'il y en ait, mais au cas où, Ice Cream Sandwich, donc c'est la version 4.0 du système Android.
C'est le nouveau Android et il est dispo que sur un seul téléphone, qui est le Samsung
Galaxy Nexus.
Galaxy Nexus, c'est ça.
C'est moi qui le sais.
Ouais, mais moi je suis old school,
Corbeny, ouais,
moi je
pas
flash
dans les trucs de la mode,
je flash les téléphones,
tout ça,
quoi,
ouais.
Voilà. Et au niveau interface, c'est quand même une bonne petite tuerie. Il y a une partie, bon, il y a tout ce qui est des unlock avec reconnaissance faciale. Bon, il nous a montré ça en fait. Le chef de produit chez Google, chez Android, a commencé. Vous êtes de ma gueule là ou...
non,
parce
non,
que
non,
sinon je vous tabasse, hein, les gars.
Il essaie de me faire des bisous pendant que tu parles.
D'accord, c'est bien.
Je suis fatigué, hein. Je suis désolé. Pardon.
Et ouais, le chef de produit a commencé juste avec la fonctionnalité kéké. C'est-à-dire que regardez, mon téléphone se délock quand il regarde mon visage. Alors, ça c'est déjà un gros.
Ça a marché.
Non, pas la deuxième fois.
Si,
ça marche.
Ouais, ça a très bien marché, mais le problème c'est
non,
que
c'est
même
la présentation,
en filmant. Finalement, une simple photo, ça se déloque. C'est-à-dire que voilà, je vole le téléphone de Patrick, je trouve une photo sur le net, je prends photo, enfin voilà, je scanne et bon, le téléphone est déloqué. Mais c'est pas un truc de sécurité, c'est plus un peu le sweep qu'on fait pour le déloquer, quoi. Donc c'est bien, vous l'allumez, il vous reconnaît direct. Et bon, ça c'est un peu le gadget qui fait buzzer le truc, quoi. Voilà. À part ça, après c'est il y a tout un système au niveau de tout ce qui est notification. Dans la barre, donc c'est la barre qu'on drague du haut
de
Android, du haut d'écran, et là-dedans il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu ces flux sociaux, ces applications en cours. Il y a
et surtout
le
les notifications sont des widgets en fait.
Voilà,
enfin,
ça
peuvent devenir des widgets,
ouais,
sur lesquels on va pouvoir agir.
C'est ça. C'est-à-dire que par exemple vous êtes en train d'écouter de la musique sur Google Music, vous pouvez faire pause directement à partir de là. Enfin bon, il y a des petites choses comme ça. Après tout ce qui est bon contact, voilà, sur les contacts c'est pareil. Il y a 50 000 options et il y a surtout la possibilité pour chaque contact de lancer une appli, en fait, enfin, de partager un truc, de le contacter, soit par mail, soit, voilà, toute une série d'applis qui se connectent là-dessus. Voilà, après, le reste,
C'était la présentation d'Android 4.0 qu'on avait déjà vu.
Déjà vu, ouais.
L'autre partie, en fait, de ce panel, c'était, bien sûr, Eric Schmidt lui-même, comme vous le savez certainement, il était CEO de Google, maintenant c'est Larry Page qui l'a remplacé il y a quelques mois. Il est toujours chez Google, bien sûr. C'est un personnage un petit peu particulier, Eric Schmidt. Pendant les premières 20 minutes, il interrompait un petit peu la présentation d'Android. Ses plaisanteries tombaient un petit peu à plat. Ça faisait un peu
Patrick, en fait.
Voilà. Vous imaginez le même un peu plus vieux avec des lunettes. C'est vrai qu'au début ça tombait un petit peu à plat, c'était un peu froid.
T'as rigolé à chaque fois pourtant.
Écoute, après, le truc c'est que c'est quelqu'un qui est, alors évidemment, d'une importance phénoménale dans le monde de la technologie, qui a une expérience et une connaissance de tous ces domaines qui sont tout à fait vénérables, et il parle très calmement. C'est quelqu'un qui est d'une sérénité assez communicative, je dirais. Et au fur et à mesure, au bout de 20-30 minutes, j'ai fini par rentrer dans son rythme presque.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et il disait des choses vraiment profondes et intéressantes. C'est presque un truc un petit peu hypnotisant, quoi. J'imagine que tous ces gens qui sont aussi haut placés dans ces sociétés ont une personnalité, un charisme particulier. Et c'est vrai que là, on l'a ressenti, le fait de le voir comme ça, de suivre cette conférence en entier.
Il a aussi pas mal d'humour. Il est rentré dans l'art une ou deux fois. Loïc Lemer lui a posé quand même des questions un peu taquines sur l'iPhone.
Il domine le marché.
C'est ça, qui domine le marché, et il a quand même répondu des trucs genre on est sur tous les téléphones, bah, on est gratuit, on est machin.
C'était très logique et très bien
très
dit,
factuel
en plus, il a dit,
et avec humour, quoi.
Loïc Lemer lui dit bon, alors c'est vrai que Apple domine le marché avec l'iPhone, et là Eric Schmidt l'interrompt, lui dit non mais une seconde, alors il domine où, nombre de machines vendues, prix, base installée ou Et là Loïc Lemer évidemment était c'était marrant, Loïc qui posait une question un petit peu trollesque, et
il s'est
fait bien répondre, du bon esprit, mais
On a pu remarquer, parce que je disais il a un air très serein, il est calme, mais par contre il y a deux ou trois moments où quand il est impératif.
Ah oui.
On sent que il n'était pas fâché, hein. Il a dit les trucs. Non. Quand Loïc a dit l'iPhone domine le marché. Non. Et après il explique, quoi. Mais il était ferme, ouais, quoi. Oui.
Avec un petit balai et des fermes.
Alors l'autre partie de cette conférence qui a été intéressante, qui toi t'as beaucoup parlé, je vais te laisser. C'était quand il a commencé à parler politique, et puis
J'ai retenu deux interventions, deux interventions avant qu'on passe peut-être au débat Android, le développement Android, parce que ça il est beaucoup revenu dessus. Mais d'abord il a dit quelque chose que j'ai trouvé assez fort sur nous Européens, et que il fallait que la Silicon Valley ait une concurrence, et que ça lui paraissait très important pour les années à venir, et que l'Europe avait vraiment sa carte à jouer, et que là il a été taquin aussi avec Loïc, et j'ai beaucoup aimé, parce que quand on parlait de Londres et tout ça, il a dit non mais vous aussi vous avez besoin de concurrence, le web a besoin de concurrence. Et donc bon, c'est quelqu'un de profondément libéral qui croit au profond bénéfice de la concurrence loyale. Il a égratigné iOS, mais en même temps il a dit c'est une super plateforme. Il y a été, hein, quand ils ont développé iOS, il était au board, hein, d'Apple. Ouais, oui. Et ce qu'il a dit sur les Européens, il a dit mais le prochain Facebook peut tout à fait être européen. Rien ne vous empêche, ce n'est vous-même. Enfin, c'est pas exactement ces mots, on va repasser l'extrait, mais c'était bien d'entendre un mec important comme ça de la Silicon Valley, c'est encourageant.
Europe is not going to become a low wage manufacturing country, set of countries. It's not going to happen, right? That investment in education, adoption of the internet, becoming global players, promoting your ideas, your science, your technology, and so forth, is the way to create differential value in a globalized market. So you don't have a choice. back to the Silicon Valley of Europe. I agree. Yeah. However,
well, I think that you're trying, with your conference here, you're actually trying to sort of do that, right? You're trying to serve as a place, which is why I'm here. I think it's important to say that it's not just because of the weather that Silicon Valley is where it is. It's perfectly possible that a combination of early stage investing, there's not enough of it here, and learning, the kind of learning that goes on by having a community of entrepreneurs who shares idea, you can pull it off.
That's exactly what we're trying to do, and we have 60 countries here, and coming here helps that, so thank you for that. But we've been talking about it for ages. You know, it's all like...
There's no time like now to do it.
Right, but then you have competition between Berlin and London and Paris, Madrid.
Competition is good. Get your act together.
Agreed?
If you're a French entrepreneur and you love Paris, do it in Paris. If you don't do it in Paris, you're going to have to go work in one of those other countries you don't like the ones next door. Sorry.
Yep, I fully agree. You told that to a president?
Yes. And
he knows, right?
And furthermore, you might even need to move to the United States, where we will guarantee not to give you a visa because we're idiots. This is a separate discussion.
Do you see...
And the reason I'm starting to be so obnoxious here, but there is a huge race now to own identity, social services, electronic commerce on these mobile platforms. I've traveled the world. There are people, very, very smart people, and I can tell you they are in a lot of different countries, and they're all trying very hard. There is an opportunity to build the next Facebook, the next Google, and so forth, right in front of you. Why do I know it? One, it's obvious, and two, it's always been true. You just have to find it.
Il va même plus loin, puisque une autre chose qui s'est passée autour du web, hein, pas exactement, en fait c'était hier, il met sa bouche là où est ses paroles. En fait, c'est une expression anglaise.
J'ai eu peur. Il met sa bouche où?
He puts his mouth where his money is. Uh-huh. Non, he puts his money where his mouth is.
D'accord.
Donc son argent là où est
On
sa bouche.
Compris.
Voilà. Bref, en gros, il fait pas que parler et ils font des choses. Et l'une des choses très importantes qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert hier, ils ont inauguré les nouveaux bureaux de développement de Google à Paris, vers le quartier de l'Opéra. Un truc, c'est 10 000 square meters, si je ne m'abuse, peut-être square feet. Je suis un petit peu ambitieux. Bref,
bon,
des grands bureaux qui ne sont pas uniquement des bureaux commerciaux, mais des bureaux de développement. Donc, il disait, par exemple, on a des développeurs en Europe à Paris,
ça,
et on va
génial.
Avoir
ça manquait en
besoin.
France, ça. Mais jusqu'à maintenant, c'était que des commerciaux, des gens
voilà.
comme ça, des représentants, quoi.
Et donc, ils vont avoir besoin de peupler ces bureaux, et ils vont devoir embaucher, peut-être acheter des startups, peut-être embaucher des gens. Enfin, ils y croient vraiment, quoi. Et ils pensent que Paris est un centre nerveux européen dans lequel ils peuvent s'étendre et se développer.
Postuler. Je vais peut-être enfin pouvoir les convaincre. Enfin, j'ai Google Belgique qui pose sur Michel. Je vais peut-être enfin pouvoir les travailler un peu au corps pour la France maintenant. Mais
donc voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle, je pense, et ça fait comme toute la conférence, ça a un air de dynamisme et d'enthousiasme qui fait vraiment plaisir à voir, quoi, et plaisir à vivre.
C'est encourageant, l'ambiance de le web, quand on essaye de faire son trou dans ses business, start-up, c'est pas facile, machin, et ça encourage. C'est une bonne ambiance, c'est une bonne vibe, on va dire. Rapidement, parce que là, et petit teaser, on va aller chez Microsoft qui va nous présenter des choses pas mal du tout, et on est un petit peu à la bourre, donc on va avoir un petit débat rapide peut-être quand même sur la dernière partie où là il est revenu spécifiquement sur le développement des apps Android, et justement on l'abordait en première partie d'émission, il y en a certains qui freinent un peu à développer sur Android. Lui, il disait, un, vous avez tort, et deux, on va mettre tout à disposition, et trois, les développeurs, finalement, qu'est-ce qui les intéresse? C'est les chiffres. Et dans 6 mois, vous verrez les chiffres. Et là, il était assez boum, 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 quoi. Sûr de lui et d'Android. Donc, voilà, pour des développeurs,
ouais,
toi qui connais ce milieu et tout ça, est-ce que c'est rassurant?
Ah oui, c'est carrément rassurant. Ouais. C'est vrai quand on veut développer pour mobile, on ne sait jamais vers quel OS s'orienter, parce qu'on ne peut pas apprendre forcément tous les langages, on n'a pas forcément le temps. Donc, voilà... Mais oui, c'est carrément rassurant. Puis savoir que, enfin, Android, c'est quand même un truc qui est sur tous les téléphones, enfin sur beaucoup de téléphones, donc qui a effectivement plus de portée. Voilà, il y a des versions qui se concurrencent. Il y a toute la partie aussi tablette, ce genre de choses. Donc c'est, il n'y a pas à réinventer la roue, bon, un peu comme avec iOS, mais non, c'est super rassurant, c'est bien qu'il l'ait dit.
Il y a beaucoup de choses dont il a parlé, spécifiquement les problèmes d'Android. Alors, l'un des gros soucis, c'est la fragmentation, bien sûr, la fragmentation des appareils, mais il n'y a pas que ça, il y a le problème que il y a différents fournisseurs d'accès, enfin... ouais. Société de téléphone.
J'ai la preuve que iOS peut se fragmenter aussi. Voilà, j'ai une fragmentation d'iOS.
Mais bien éclaté. Par exemple, il y a plein d'app stores différents sur Android. Donc il faut que les développeurs soumettent leur application à plein d'app stores différents. Enfin bref, il y a plein de petits soucis spécifiques à Android. Et ce qu'il a dit et qui est très rassurant, c'est que avec la mise en place de Android 4.0 et les partenariats et les négociations qu'ils font avec tous leurs partenaires, ils travaillent à corriger ces situations. Donc il disait, dans 6 mois, vous verrez les chiffres. Et il disait aussi, dans 6 mois, la situation sera beaucoup plus simple. Et on sent qu'ils veulent... Alors, ils n'arriveront certainement pas à une unité aussi grande que sur iOS où Apple contrôle absolument tout. Mais par contre, ils sont conscients que ce sont des problèmes et ils sont en train de travailler à les corriger. Donc, on peut dire que dans 6 mois, en étant optimiste ou un petit peu plus tard, les choses vont s'améliorer de manière très sensible et que les Android deviendra encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui une plateforme attractive pour les développeurs, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Android et à cet écosystème en général.
Je vais faire une parenthèse parce que je me suis un peu baladé et comme vous êtes pressé, je vais faire vite. Là il y a le gouvernement qui vient de lancer un truc il n'y a pas longtemps qui s'appelle data.gouv.fr. Donc j'ai discuté un peu avec eux, je les ai trollés.
T'as discuté avec le gouvernement?
J'ai discuté avec le gouvernement. Donc il y a deux jours je les ai trollés parce qu'il y a une belle faille XSS, donc on s'est un peu amusé sur internet, le portail. Donc j'étais les voir, ils m'ont dit que ça les avait fait marrer, ils ont corrigé vite. Et en fait c'est là que c'est intéressant parce que toutes ces histoires de social...
data.gouv.fr, c'est une initiative très intéressante qui est la libéralisation des données du gouvernement. Donc toute une énorme quantité de sets de données du gouvernement, de données publiques, sont accessibles sur ce site.
CSV, enfin des données brutes en fait qui sont accessibles. Voilà, il y a les écoles, les gares,
les budgets,
en France, les budgets, la criminalité, genre de trucs. Et comme on parlait du Solomo là, du social local mobile, il y a effectivement des données brutes qui pourraient très bien être utilisées par les développeurs, ça je vais en venir, pour faire des applis en fait, tout simplement. Et si vous développez des applis, allez jeter un œil là-dedans parce qu'il y a vraiment des données très précieuses, très intéressantes, qui pourraient être que vous pourrez utiliser sous forme de mashup avec vos systèmes de Google Maps, enfin vos applis quoi, vraiment, et fournir des données en plus à vos utilisateurs, et c'est vraiment intéressant quoi. Donc ils sont très sympas, voilà.
D'accord.
Ça vaut le coup d'aller voir.
Dernière chose, juste pour dire, je sais pas si le lien sera disponible spécifiquement, mais la dernière chose qu'on a fait avant, maintenant on va aller voir donc Microsoft, c'était une petite interview sur Le Web TV, qui est le studio de TV de Le Web, qui était animé par Léo Laporte et Sarah Lane, dont on parlait. Cédric Ingrand, notre camarade, y est passé aussi, et donc j'ai eu la chance d'être interviewé aussi par Léo et Sarah. Donc c'est sur tweet.tv, ils vont le ressortir en version streamable à la demande. Donc voilà, c'était l'une des dernières choses qu'on a fait. C'était très sympathique aussi, et c'est encore une fois très intéressant de voir que tous ces gens là viennent ici et s'intéressent à ce qu'on fait. Donc c'était bien.
Ouais, c'était, alors toi tu connais bien Léo Laporte, mais c'est vrai que bon ben voilà, de voir Kevin Rose, Léo Laporte, Sarah Lane, d'être dans le studio, c'est pour nous podcasteurs un grand moment quoi. Donc ouais, ça c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que de les voir en France, et puis ils sont pas ouais, c'est un petit salon français, mais on est venu machin.
Ils sont pas méprisants
du tout, ils voient le dynamisme. Je veux pas faire du over, mais c'est vrai que Le Web, je m'attendais pas à autant d'énergie, il y a une vraie énergie. Et en ce moment en Europe, comme ça manque un peu, on est plutôt dans une phase de pessimisme, ça fait un peu du bien quoi. Donc
non, mais ça
c'est cool.
C'est un peu aussi la mentalité du web quoi. Chacun dans tous les pays du monde fait des trucs de fou quoi, et voilà, on ressent ça ici quoi. C'est vrai que c'est parce qu'on est dans le web quoi, ça serait un autre salon sur un autre secteur.
Tu veux dire que ce soir quand je vais rentrer chez moi, je vais redéprimer.
Voilà, c'est ça. D'accord.
Bon bah je crois que on peut en faire notre conclusion.
Voilà.
Donc on sera.
Et puis bah on revient demain. Enfin on va tourner les trois jours. Peut-être toi tu seras peut-être pas là le troisième jour, mais toi t'es là le troisième.
À moitié.
Bon bah on essaiera de faire un petit
récap. On fera des trucs.
Il y aura au moins une autre version. Enfin un autre récap. Soit demain, soit après-demain, et peut-être deux.
En tout cas, ça va sortir. Là on est en train de parler de demain, mais on sait pas bien quand tout ça va sortir. Ça va dépendre du montage derrière, parce qu'on peut pas monter et être là en même temps.
On vit dans le futur.
On va voir.
On y bosse.
Donc bref, super salon, super sympa. Ça fait plaisir de se retrouver aussi. On a vu Eric Presse Citron, JC Frog, enfin plein de gens. C'était vraiment cool. Donc super bonne première journée à le web, très positive. Et puis on a hâte de voir ce qui va se passer demain pour la deuxième journée.
Vivement demain.
Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tous.
Salut tout le monde.
Bonjour les no-watchers et les no-watcheuses. Corben a fini de se moucher, d'envoyer des SMS, tout ça.
Bon, c'est bon, je suis prêt, je suis épuisé, okay. C'est crevant le web.
C'est fatigant, ouais. Hein. Et un autre qui est hyper fatigué, c'est Jeff.
Pas fatigué, moi.
Non, c'est vrai? T'es parti pour encore deux jours de folie?
Bah, moi, ça fait 8 ans que je fais les blogs 2 et le web. Et bah, c'est la forme. Beaucoup
à chaque fois, c'est
3500 cette année. On avait commencé à 200, donc en 2005.
Ouais.
Et puis bah, maintenant, on est 17 fois plus.
C'est pas mal
dans une infrastructure qui est monstrueuse.
C'était 2005. Ouais, moi hier je disais, en fait, quand on a fait le résumé du premier jour, je disais que ça faisait une dizaine d'années, mais en fait c'est beaucoup moins, ça fait à peine 6 ans.
Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est la première conférence du blogging, c'était BlogOn en 2004. Ça a inspiré Loïc et qui a fait le premier Les Blogs, qui était au Sénat à Paris. Et on a oublié qu'il fallait passer au travers des détecteurs, et donc ça a mis 45 minutes à faire rentrer les 200 blogueurs.
Pas mal.
Et après, on a doublé, redoublé et doublé encore, et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui.
Ouais, parce que moi j'étais là il y a 2 ans, l'année dernière j'avais pas pu venir, et il y a 2 ans, bon, c'était quelque chose comme ça,
ouais.
Un petit peu moins même, et c'était beaucoup moins impressionnant. Enfin, c'était déjà grand, mais moins qu'ici. Mm-hmm. Ici, c'est carrément, enfin, il y a 3 salles, c'est assez énorme en effet.
Je veux dire, quand tu rentres dans la salle, et tu montes sur la scène et tu dis oh la vache, mais il y a plein de monde.
Tiens, rapproche un peu là.
C'est assez impressionnant. Hein.
Bah, alors justement, tiens, venons-en à ce qui s'est passé aujourd'hui. Deux choses dont j'aimerais que tu nous parles pendant que tu es là, parce que tu risques de devoir partir assez vite. D'abord, tes impressions générales sur cette édition que tu as commencé à nous donner. Ouais. Et ensuite, le panel que tu as fait ce matin et tes impressions sur le panel et ce qui y a été dit aussi, qui
bien
était le money panel sur les investisseurs en général dans le monde du tech.
Ouais. Alors bon, cette édition. Donc les autres années, le web, c'est une conférence de deux jours, et donc Loïc avait systématiquement énormément de présentateurs, de panels, etc. Et je lui ai dit, écoute, c'est trop condensé. Essaye de voir si on peut faire 3 jours. Donc
ouais.
On fait 3 jours. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous recondense tout ça et il nous met une liste d'à peu près 150 intervenants avec des très très grands noms quand même. Parce qu'on a commencé avec Karl Lagerfeld, dont on a parlé hier, ce qui était quand même assez grandiose. Bizarre, mais grandiose.
Ouais, c'était un peu étrange, mais marrant. Hein, regardez la vidéo du jour précédent, on vous décrit ça, c'est marrant.
Étrange. et après, bon, Eric Schmidt pour 45 minutes, bon, avec un petit peu de la partie pub pour Android,
ouais,
n'est-ce pas? Mais quand même une intervention intéressante. Et globalement, quand je regarde en fait les intervenants de cette édition, je suis épaté. Bon, je suis un grand copain de Loïc, je vais le reconnaître, mais il m'a quand même épaté.
Ouais, bah c'est ce qu'on disait un petit peu aussi. Mais nous, bon, on est en France, et donc on regarde ça comme des Français qui généralement sont spectateurs extérieurs de ce type de conférence, et on a l'impression que on a un petit peu la crème. Une partie de la crème de la Silicon Valley qui est venue en France, et que donc on a une conférence qui est comparable, peut-être pas en intensité, mais en tout cas en qualité, à ce qu'on peut avoir là-bas.
Ah oui,
est-ce qu'on est vraiment dans la même cour?
Absolument.
Quoi.
Je peux même te dire que, mis à part une conférence de Tim O'Reilly qui est la Web 2.0 University, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est une conférence beaucoup plus grosse, qui est vraiment orientée développeur. En termes de conférences sur 3 jours avec un programme aussi riche, il n'y a même pas l'équivalent aux États-Unis. C'est une des plus grosses conférences tech et business, ou business du tech, qui existe au monde aujourd'hui.
D'accord. Donc,
on est chanceux, quoi.
Ouais.
Bah, je pense. Et je ne sais pas si vous avez, je sais pas ce qui est sorti en fait du discours du président, mais hier soir, en fait, Sarkozy nous a reçus à l'Élysée.
Il recevait qui exactement et dans quel but, peut-être que tu peux nous dire.
C'était Loïc et moi, et puis 200 Pékin. Non, c'était l'ensemble des speakers du web qui étaient invités, plus quelques partenaires, etc. Donc à peu près 200-250 personnes. Et le président a en gros parlé pendant à peu près 10 minutes sur ses grands points de l'innovation en France, l'Internet, etc. Et il a rendu hommage à Loïc et Géraldine en disant « Le web est maintenant un des composants majeurs de la valeur de l'économie numérique en France ». Je pense que c'était un très bel hommage et pour les gens qui sont proches d'eux, ça nous a fait très plaisir.
Bah, c'est vrai qu'on en discutait notamment quand j'étais. Si vous voulez regarder, si vous parlez anglais, l'interview qu'on a fait sur le Web TV, donc avec Tweet, avec Léo Laporte hier, c'est un des trucs qu'on disait, c'est que moi j'ai vraiment l'impression, en tout cas personnellement, que il y a dans ce monde du tech, évidemment c'est dominé par des anglophones et des américains, et il y a quand même une alors 90% anglophones, et il y a quand même une petite composante française qui est, moi, dans ce que je vois dans les podcasts, en tout cas, qui est identifié par des gens comme Loïc, comme toi, comme Cédric, par exemple.
Cédric Fabrice Guinda aussi.
Que je ne connais pas, tiens.
Bah, tu devrais le connaître. C'est un garçon remarquable, un entrepreneur. Il était en fait l'entrepreneur derrière Auckland. Tu te rappelles d'Auckland dans les années 2000. Aujourd'hui, il a fait pas mal de... Rappelez-vous d'Auckland ?
Non. J'étais au Japon au début des années 2000.
En tout cas, je le sais. Bonjour, c'est un copain. Et c'est un mec donc qui a créé 5-6 boîtes. C'est aussi un business angel très actif, surtout au Brésil et en Russie. Et c'est un mec assez extraordinaire. Je me permettrai de vous recommander.
C'est
un mec qui est vraiment très bien.
On va le faire.
Auckland, si je me souviens, c'est un genre d'eBay site de vente aux enchères.
Ouais.
D'accord.
Et d'ailleurs, ils ont été rachetés par eBay.
Alors effectivement on se posait la question, ou en fait on se disait, finalement il y a les Américains et les Français qui sont vraiment il y a des gens dans tous les pays du monde bien sûr, mais je veux dire il y a une vraie marque française, et comme le disait Eric Schmidt, il y a une vraie compétitivité en France et une vraie opportunité, et toi tu vois ça de ton point de vue d'investisseur. Je veux dire, on peut faire un petit cocorico quand même, et une félicitation à Loïc bien sûr, mais en même temps se donner du courage tous ensemble en France, parce qu'on peut faire des trucs quoi, même on les voit plus en tout cas que d'autres pays qui ne sont pas aussi présents.
Oui, je pense que aujourd'hui tu regardes les atouts de la France. Moi je me rappelle, donc avant de partir aux États-Unis il y a 11 ans, j'étais en France et j'ai eu des équipes d'ingénieurs, et je trouve que les ingénieurs français ont toujours été excellents ils ont toujours travaillé vachement dur, alors que les Américains sont aussi très bons, mais ont tendance à surfer sur Internet, à faire des Twitter, etc. Et donc en termes de productivité, en fait, il est prouvé que les Français sont plus hauts. Le seul problème, c'est cette notion de prise de risque, le fait de se lancer, de dire on va faire une conférence de blogueurs, et puis on va la refaire, et puis on va mettre des moyens, et puis d'un seul coup on se retrouve avec une plateforme qui est une des plus grosses conférences au monde, et ça nécessite d'avoir le courage d'y aller, de prendre le risque et de réussir.
C'est cette étape de se dire je risque de me casser la gueule, mais j'y vais quand même. L'idée que si je réussis, je veux faire ce que j'ai envie de faire, et de cette culture d'entrepreneuriat qu'on a peut-être un petit peu moins en France, c'est vrai. Ouais.
Je pense qu'il y a une culture d'entrepreneuriat en France. Je pense que la petite différence, c'est cette notion que l'on a nous aux États-Unis ou dans la vallée, où la prise de risque, en fait, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, mais tu sais que le fait de se planter n'aura pas des conséquences super négatives sur ton futur.
Alors, comment ça marche, ça ? Parce que finalement, on s'écarte un petit peu du sujet du web spécifiquement, de ce qui s'est passé ici, mais par contre, c'est le cœur du thème. Mm-hmm. En France, je suis sûr que la première chose que va répondre quelqu'un à qui tu dis « mais toi, t'as une idée, effectivement, tu risques de te planter, mais faut y aller », il va te dire « bah oui, mais moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, qu'est-ce qui se passe si je me plante, si je me retrouve, si je quitte mon boulot maintenant où je suis tranquille dans une SS2I, c'est un peu chiant, mais je paye mes chèques à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe si je me plante ? C'est la merde, quoi, je peux pas. »
Oui, et c'est pour ça que, malheureusement, tu as beaucoup d'aspirants entrepreneurs.
Alors que, entre parenthèses, en France, on est beaucoup plus protégé socialement qu'aux États-Unis, où
si tu te plantes, bah là t'es sur la paille quoi.
Ah bah oui. Oui, tout à fait.
Donc que leur répondre?
Que leur répondre? Bah si tu veux, le truc c'est, si tu es un entrepreneur qui a une passion où tu te dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, à un moment ou à un autre il faudra que tu le fasses, sinon tu considéreras que t'as pas réalisé ton potentiel. Et donc ça veut dire que tu vas prendre le risque, soit tu vas faire des économies et puis au bout d'un moment tu vas quitter ton job, tu vas te dire avec ta chair étante, bah voilà, on va investir pendant un an ou pendant un an et demi nos économies sur ce projet, on va le faire ensemble et puis bah si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah je repartirai pour trouver un job.
Je retourne trouver
et pour
un
être
job
très honnête,
normal. Quoi.
C'est la discussion que j'ai eue avec Bernadette, mon épouse, quand je lui ai dit, alors voilà, je vais arrêter d'être un VC, donc on va arrêter de travailler dans le fond, donc on va arrêter le salaire, on va travailler avec des startups qui n'ont pas d'argent, donc elles vont pas payer, et puis en plus, comme elles ont besoin d'argent, on va leur donner de l'argent. Et je peux te dire, c'était une conversation qui était... Alors attends.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Je le répète, plus d'argent là, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait... J'ai eu cette chance d'avoir son soutien pour faire ça pendant un an, deux ans. Et puis, bah, ça a bien marché. Et puis, bah, aujourd'hui, Softtech est un des leaders sur le marché de l'investissement de jeunes pousses, comme on dit, aux États-Unis. Parce que, initialement, j'ai pris ce risque avec mon propre capital. Et puis, bah, aujourd'hui, là, on est en train de boucler un fonds de 50 millions.
Ouais, j'ai écrit un édito ce matin sur tout ça, ces histoires de passion. Je trouve que c'est important que les gens se lancent et vraiment vivent de leur passion, en fait. Ça,
oui,
ça
complètement,
peut être...
complètement.
Et moi, je l'ai fait, là, cette année. J'ai créé ma boîte, en fait, cette année. C'est aussi une question d'opportunité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un tas, c'est pas évident. On est un peu coincé, etc. Faut payer, comme tu dis, les chèques et tout. Là, j'en ai profité, voilà, de démissionner. Donc, c'était l'opportunité. Et il y a quand même des trucs en France, genre les aides à la création d'entreprise, ce genre de choses qui permettent quand même d'assurer les arrières pendant plusieurs mois et de se lancer, quoi. Il y a pas mal de choses.
J'ai eu un déjeuner avec Eric Besson, donc le ministre de l'Industrie, de l'économie numérique ou.
L'un des deux, oui. L'économie numérique, je crois.
Le Grand Bleu, le cinquième élément, Nikita, tout ça, c'est Eric Besson, quoi.
Voilà.
Et donc...
Ah bah j'ai oublié de demander autographe. Et donc effectivement, dans le cadre du déjeuner avec plein d'entrepreneurs, il essayait de démontrer que la France avait mis en place un certain nombre de réformes qui permettaient en fait, un, de simplifier les procédures pour devenir un entrepreneur ici, lancer sa boîte, et puis aussi il y avait toutes les aides, le soutien qu'avait offert donc le gouvernement et les différentes agences, et c'est franchement très bien, c'est franchement très positif. Parce qu'un des soucis qu'il y avait il y a quelques années, même jusque très récemment, c'était que c'est une galère au niveau administratif, quoi. Donc c'est vrai que si tu as des contraintes personnelles et que bah tu peux pas te permettre de pas avoir de salaire pendant quelques mois, bah c'est clair que l'entrepreneuriat c'est pas pour toi, parce que typiquement quand les gens viennent chez nous pour du funding, ils ont fait un bootstrapping, donc ils ont fait le financement de leur entreprise eux-mêmes pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et c'est sur leur propre fond, quoi.
Ouais.
Donc c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai.
C'est un petit peu, je me souviens, au moment de la mort de Steve Jobs, j'avais écrit un article sur mon blog dont j'ai parlé dans toutes les émissions, et justement sur le fait de suivre ses passions et d'essayer de faire ce qui nous paraît important, comme tu disais, parce que sinon ça va toujours vous bouffer de l'intérieur à un moment. Et j'en avais parlé donc dans le rendez-vous tech, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, mais tu te rends pas compte, tout le monde peut pas. Et c'est vrai que forcément il y a des gens qui peuvent pas, mais surtout quand les gens sont jeunes, quand vous n'avez pas une famille à charge, quand vous n'avez pas deux enfants à mettre à l'école, etc., c'est le moment de se lancer. Et en France, on a un terreau qui est de plus en plus positif, et donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter, quoi.
Oui. Et pour être très honnête, c'est à ce moment-là on peut se permettre de prendre des risques, c'est à ce moment-là on peut faire des choses, c'est ce moment-là où si votre rêve c'est de partir à Berlin, dans Silicon Valley, etc., que vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Moi c'est le seul regret que j'ai, c'est que je suis parti aux États-Unis à 33 ans et pas à 23 ans.
Ouais.
Mais bon.
Corben.us bientôt.
Non, point Auvergne. Moi, ma Silicon Valley à moi, c'est l'Auvergne. Mais non, moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, vivre de sa passion, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Hein, faut ramer. Faut.
Quand. Si c'était facile, tout le monde.
On peut se lancer comme ça, direct, sans réfléchir entre guillemets. Ça peut marcher, mais c'est risqué quand même quand t'as une famille ou même voilà, faut payer l'appart, etc. C'est pas évident. Mais en prenant des précautions et en taffant le soir dur et en faisant ce qu'il faut pour d'un côté. à avoir lâché son boulot sans se retrouver dans la merde et voilà, c'est pas mal. Et si vous êtes en région parisienne et que vous payez des loyers de fou, partir en province c'est aussi une bonne idée parce que maintenant avec internet on peut bosser n'importe où. Et
nous finalement No Watch, ce qu'on est en train de faire, on le fait complètement virtuellement. On est tout le temps sur Skype, par email, on a une vraie infrastructure de boulot. Qui a pas besoin. Il y a des gens à Bordeaux, il y a des gens à Paris, il y a des gens.
Et ça mine de rien. Enfin moi je le vois, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas déménagé parce que pour payer le loyer etc. En région parisienne c'était la folie. Donc c'est vrai que c'est un truc. Si vous avez une idée de start-up, une boîte etc. Quitter Paris, c'est pas une mauvaise idée à moins que vous ayez vraiment besoin de clients, de genre de choses etc. Mais bon voilà.
Non, c'est un super point en fait que dit Corben parce que aujourd'hui, moi je me rappelle quand je suis venu ici, ça coûte à peu près 5 millions de dollars pour lancer la boîte. Quand je suis devenu business angel 4 ans plus tard, ça coûtait à peu près 500 000 $. Maintenant, tu as des gens qui développent un produit sans aucun financement.
Parce que la technologie permettait de faire les choses plus...
Voilà. Parce que oui, t'avais l'open source, parce que tu as commencé à avoir le cloud, etc. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment développer une boîte et un produit avec quasiment rien. J'ai des gens qui viennent me voir en disant « ça m'a coûté entre 5 000 et 10 000 $ ou 5 000 et 10 000 €. » Évidemment, t'as pas des tonnes de clients, t'as pas des tonnes de validation, mais la base, le corps est fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à être entrepreneur genre le week-end ou le soir et ils continuent la journée à faire le job qui leur permet de payer les factures.
Alors on parlait de tweet tout à l'heure, je crois que tu as l'interview qui commence dans pas longtemps.
Ouais, dans 10 minutes.
Donc on va se...
Je peux être casual late aussi. Hein.
Ah oui, bah on est en France. Hein. c'est fashionably late. Tu as justement participé à un panel ce matin,
ouais,
de VC et d'investisseurs.
The Money Panel.
Qui fait un petit peu chaque année l'état des lieux, ouais, de l'investissement dans le domaine de la technologie. Qu'est-ce que vous avez raconté et où on en est en ce moment?
Donc ce matin on était quatre sur ce panel, donc on était deux à représenter, je dirais, l'écosystème plus jeune pousse, donc moi et mon copain Dave McClure, et puis on avait deux VC européens, donc un d'Axel et un de Wellington, un français, Eric Archambault. Et en gros, ce dont on parlait, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de grands mouvements au niveau des plaques tectoniques. Et les plaques tectoniques, il y en a plusieurs. Un, c'est au niveau jeune pousse aux États-Unis, c'est un peu la folie. On a l'impression vraiment que on est dans un univers parallèle. Il n'y a pas de crise, ça n'existe,
ouais,
pas. Tout le monde, il y a personne qui a de dette, etc. Et donc il y a énormément de financements qui se font.
C'est une illusion d'optique ou c'est vraiment la situation là-bas?
C'est vraiment la situation, je te jure.
D'accord.
C'est j'ai jamais, enfin. Ça fait 11 ans que je suis investisseur, ça fait 7 ans que je travaille donc dans cet écosystème du web. On a triplé quasiment le nombre de dossiers qui nous arrivent par mois, à peu près. Par contre, nous, on ne fait que 20 investissements par an et donc on n'a pas changé notre rythme d'investissement.
Oui.
On a juste changé le filtre. Donc beaucoup d'activités au niveau jeune pousse. Après, il y a pas mal d'activités qui se fait sur les boîtes qui démarrent bien, donc sur ce qu'on appelle le Series A, Series B, donc l'investissement VC assez traditionnel. Bon, par définition, les États-Unis c'est plus actif que l'Europe, mais bon, il y a quand même de belles choses qui se font en Europe. Et après, le souci, la troisième plaque, c'est les sorties. Donc comment est-ce que les boîtes peuvent retourner de l'argent à leurs investisseurs? Et là, le problème, c'est que le marché des mises sur les marchés publics en Europe et aux États-Unis, c'est pas facile. Et donc à un moment ou à un autre,
quand les sociétés veulent entrer en bourse,
C'est ça, oui. Quand ils vont faire leur IPO. Et là, par contre, c'est pas facile du tout pour les boîtes américaines. On a vu donc Groupon se prendre une dévissée là après
une belle entrée.
Après une belle entrée. Donc c'est la bonne. Alors il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sorties. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et ce que j'ai entendu de mes collègues européens, c'est qu'en fait, eux, ils seraient bien contents d'avoir au minimum quelques sorties parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est ça, en fait, le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas comment est-ce que cette espèce de grippage du marché de la sortie va se défaire. Et à un moment ou à un autre...
Finalement, le marché de la sortie, en fait, c'est la rencontre entre votre univers parallèle où tout va bien et,
voilà, et
la réalité où c'est la crise.
Où donc, c'est plus parallèle,
ouais,
du tout.
D'accord.
Ok. Et donc, c'est là où, à un moment à un autre, on sait très bien que ça va craquer, quoi. Mais
et ça va craquer comment, en fait? Il va plus avoir d'argent à investir parce qu'on n'aura pas.
Non, c'est que en fait les gens vont devoir passer. Enfin, il y a des problèmes systémiques si tu as des boîtes qui sont dans ton portefeuille
pour trop longtemps, genre juste 3 secondes, un fonds de capital risque s'est créé pour 10 ans. Si jamais tu as une boîte qui a 12 ans, elle ne tient plus dans le fonds, il faut faire plein des choses un peu au niveau légal, etc. pour le gérer. C'est technique, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, si ça se prolonge, va être un problème.
D'accord.
Bon, mais c'est pas la fin du monde. Et aujourd'hui, on n'y pense pas. Et pour être très honnête, moi, quand j'investis dans une boîte, de toute façon, la boîte ne va pas sortir pour 5, 6, 8 ans. Et donc, je m'en soucierai dans 6, 8 ans.
C'est marrant parce qu'on a parfois l'impression que l'univers de la tech et de la Silicon Valley et des angels, investors, c'est un petit peu la loterie, quoi. On se dit, ils arrivent, ils mettent 100 000, 200 000, 1 million, et ils ressortent au bout de 1 an ou 2 ans, ils font une sortie à 10 fois. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Généralement, vous êtes partenaire des gens chez qui vous investissez. Sur 5, 6 ans, c'est votre durée normale.
Tu vas avoir des gens qui font ça, c'est-à-dire, ils vont mettre les premiers tickets, ils vont sortir dès qu'il y a d'autres investisseurs qui rentrent. Après le Series A, par exemple. Nous, c'est pas du tout notre philosophie. À Softech, on est en fait des VC, on est des capital risk. Donc simplement on investit très très tôt, et pour nous, pour faire de l'argent, en fait il faut que la boîte se vende. Cela dit, je dirais qu'on parle toujours des choses qui fonctionnent, on parle toujours des sorties à 10x en un an, et je veux dire, mon premier investissement en 2005, c'est une boîte qui s'appelait Truvio, qui a été rachetée par AOL pour 17 fois la mise en 11, en 10 mois et 3 semaines. Donc tu vois, ça arrive. Ok, mais ça, c'est avoir le cul bordé de nouilles, c'est être chanceux, et c'est pas là-dessus que tu dois compter. C'est pas la norme.
Ouais, d'accord. En fait, j'aurais voulu qu'on continue sur. On va parler avec Corben qui a vu les startups après des startups, justement, de ce que tu as vu ici. Mais juste en deux secondes, il y a eu deux ou trois, peut-être que tu les as pas vus par contre, deux ou trois présentations sur dans la salle de conférence plénière, qui était assez intéressante, qui avait un lien avec le tech un petit peu, mais qui était presque des présentations à la TED, en fait, qui étaient des présentations où c'était des gens qui venaient montrer des trucs intéressants. Ouais. Il y avait un magicien, par exemple, Marco Tempest.
Ouais, j'ai pas vu.
Qui est venu montrer ce qu'il faisait sur le web avec ses tours de magie au téléphone portable. Et il y a aussi Joseph Thaim. Qui est ce marathonien qui a fait vous avez certainement vu
lui je l'ai vu il a débarqué dans la salle des speakers, et je rentrais, je faisais pas attention, je me suis retrouvé face à son truc, je disais qu'est-ce que c'est que ça.
Alors allez voir sur internet Joseph Thaim, vous trouverez un truc un petit peu étrange. C'est le marathonien de Tokyo qui fait des marathons en forme de différentes choses. Il a fait la pomme d'Apple, il a fait aussi Twitter, Google Plus, enfin plein de trucs comme ça. Il a fait une présentation assez émouvante sur ce qu'il avait fait au Japon après le tremblement de terre. Alors, est-ce que le web est voué à se diversifier un tout petit peu dans ce sens-là?
Je pense que ça, c'est super. Et c'est pour ça que je pense que c'était super, même si c'était bizarre, d'avoir Karl Lagerfeld qui venait parler donc dans ce contexte-là, parce qu'il utilise la technologie, il nous l'a montré, il nous a fait ses petites démos avec l'iPad, il a montré son sketch donc de Steve Jobs, qui était quand même assez bien réussi. C'est le genre de truc, ça coûte 50 000 euros parce que c'est lui qui l'a fait. Mais je pense que je pense que c'est une chose importante pour le web d'ouvrir un petit peu la fenêtre en gros de la technologie sur son impact sur les gens de la technologie, et je pense que c'était une super idée.
D'accord. Bah, espérons que ça continue. Le web, l'année prochaine, bon, je te parle comme si tu étais le représentant officiel du web, mais c'est toi qui es un petit peu le plus d'entre nous dans l'équipe du truc. Donc, l'année prochaine, est-ce qu'on peut. On a déjà une idée de ce que ça peut donner? Est-ce qu'il va y avoir des changements ou c'est pas du tout.
Écoute, j'ai demandé à en fait, celle qui organise tout, c'est Géraldine, et je lui dis c'est quoi les dates, et je sais que les dates c'est sur 3 jours. Voilà, c'est tout ce que je dirais.
D'accord.
Et ce sera en décembre. Donc, bon, réservé.
Donc ça ne change
pas. Il y aura peut-être
encore
de la neige. Parce que ça, c'est ça qui manque cette année, c'est la neige.
Non. Alors ça, ok. L'année dernière, on a été complètement bloqués, d'accord. C'était impossible ne serait-ce d'arriver au métro. Et moi, je me rappelle, j'ai dû me trimballer Robert Scoble et Marissa Mayer dans une voiture pour les amener au métro et après les escorter jusqu'à leur hôtel. Et il y avait genre 50 cm de neige. Et Marissa, elle avait ses petites chaussures. Et ben, c'était pas drôle du tout.
Oui, je m'en souviens, on en avait parlé.
Donc pas de neige, merci Corben.
Marissa Mayer d'ailleurs qui a fait une interview avec MJ Sigler tout à l'heure. J'ai été assez surpris de voir à quel point elle a, elle a un truc bizarre, cette femme. Elle a un regard troublant. Elle a une sorte de charisme.
Elle louche,
bizarre.
C'est ça que je veux dire.
Non, elle louche pas.
Ah bon, je sais pas, tu dis un regard troublant.
Non, non, mais elle a un regard hyper perçant, quoi.
Et non, tu, mais elle est super smart. Elle est, mais super intelligente. Quoi. Elle est
et
super intelligente.
Enfin, elle est passée un moment à côté. J'étais. Bon, c'est aussi son statut qui est.
Elle est très sympa.
Des grandes têtes de Google.
Elle est très sympa. Elle est super intelligente. Et tu peux parler vraiment de choses. Elle est vraiment. C'est quelqu'un. C'est un peu un puits de science. Et je passe pas beaucoup de temps avec elle, mais j'apprécie toujours les quelques moments qu'on a.
D'accord.
C'est dommage.
C'est dommage quoi.
C'est dommage quoi.
Tu passes pas beaucoup de temps avec elle.
Bah, qu'est-ce que tu veux dire là?
Je crois que Corben a des vues sur Marissa Mayer.
Marissa est quand même de très jolie aussi, faut le dire. Parce que tu dis qu'elle louche et tout, mais elle est quand même très sympa, elle est très jolie. C'est pour ça que je dis que c'est dommage.
Non, pas du tout.
Elle est charmante. Moi je le dis, elle est charmante. Elle a très beaux yeux.
Elle a vraiment un regard perçant quoi.
Parce qu'elle est super intelligente. Donc voilà, ça nous a troublé le Patrick.
Oui, non mais complètement.
Moi ça va, je trouve qu'elle a très beaux yeux. Et là-dessus. On se quitte et on se retrouve sur le rendez-vous tech. Salut. À très bientôt.
Ciao Jeff, merci d'être venu. Donc Jeff a été transformé en quelqu'un de beaucoup plus beau
et avec beaucoup moins d'argent. Donc n'investissez pas en France.
On va parler start-up parce que le web c'est quand même beaucoup start-up. C'est très très concentré sur les start-up et Corben en a rencontré quelques-unes.
Oui, et même Corben, c'est ce que tu disais hier. Tu disais le seul truc intéressant. Un des trucs les plus intéressants, c'est vrai que c'est les start-up, mais là je te rejoins. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps parce qu'on n'est que deux. On n'a pas eu le temps de vraiment voir ce qui se passait et que les startups sont le tissu vital de l'entrepreneuriat web français. Donc, est-ce que le tissu est bien vivant comment va-t-il?
Il va bien. Ouais. Alors, c'est beaucoup de ici à la web, c'est pas mal de startups quand même qui démarrent. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore rentables, etc. Il y en a quelques-unes, mais voilà. Et en général, ils sont là aussi pour
le. Il y a un concours de startups et tout.
Pour
mettre les startups et les investisseurs ensemble.
C'est ça, il y a
un concours de startup pas rentable en fait.
Ouais, j'ai pas encore été voir les startups. Bon, c'est pour le concours en tout cas, c'est des startups qui sont spécialisées dans le mobile, les applications locales, mobiles, etc. qui sont sur le thème de le web.
Ouais.
Moi, j'en ai rencontré pas mal là ce matin.
Est-ce que peut-être pour orienter un peu tes réponses, est-ce que tu sens des grandes tendances dans le développement? Bon, à part le Solomon effectivement qui était vraiment le thème de le web, mais est-ce que même en termes de ce qu'ils utilisent pour développer, les méthodes de travail, est-ce qu'il y a beaucoup de copycat aussi? Est-ce que tu penses qu'il y en a, c'est trop sur le même modèle, pas assez d'innovation? Voilà, déjà au niveau global.
Il y a un peu de tout en fait. Il y a des trucs qui sont un peu copycat parce que c'est un énième réseau social, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment réseaux sociaux, etc. Ils ont tous un petit peu leurs réseaux sociaux, mais après il y a des trucs vraiment innovants, des services intéressants. Il n'y a pas vraiment de c'est réparti, il y a un peu de tout,
Et alors qu'est-ce que t'as vu de vraiment intéressant? Est-ce que tu peux nous parler de quelques startups?
J'ai vu Evernote qu'on ne présente plus, qui est pas une startup française,
startup. Evernote ils sont lancés.
J'ai
sorti mes cartes de visite.
Evernote ils font beaucoup de choses. Enfin, il y a les startups. Maintenant c'est devenu, on développe pour Evernote aussi.
Ils ont sorti, ils ont sorti des nouvelles applications, etc. aussi. J'ai vu pas mal de boîtes. J'ai rencontré plusieurs mecs qui avaient des boîtes où ils créent des applications mobiles, mais pas from scratch, c'est-à-dire qu'en fait ils développent un espèce de système qui permet à des entreprises selon différents thèmes, etc., de créer facilement leur application mobile, par exemple pour des événements ou pour des tas de choses. Et ils sont plusieurs à faire ça en fait. C'est un truc que je vois qui ressort un peu. Il y a Gumeo, Duo Apps qui fait ça.
Maintenant, faut pas montrer les numéros de téléphone. Parce qu'il va falloir que j'ai les logos pour les trouver sur Internet.
J'ai rencontré une startup qui s'appelle Neio, alors N-E-2-I-O, qui a fait un produit absolument sympa qui permet en fait de faire du tri dans tous ses contacts. Donc ça se connecte à tous les réseaux sociaux, Gmail, Facebook, etc. Et en fonction des listes, en fait, ça crée des espèces de groupes un peu comme sur Facebook, des listes un peu comme sur Facebook, mais de manière automatique. En fait, ça fait le tri dans tout. Ils sont très sympas. J'ai rencontré des Marocains. Qui font un service à destination plus des blogueurs faire un peu de la curation, enfin centraliser un peu tout ce qui est lien, etc. J'ai rencontré une artiste
Media Heroes.
Ouais, Midi Heroes, ça c'est les Marocains. J'ai rencontré une artiste qui s'appelle Samantha, qui est tout à fait charmante.
Ouais.
Samantha Villeneuve, qui est en France et qui en fait s'amuse à faire rencontrer des artistes un peu américains, français, etc. en faisant des bulles sur Google Plus en fait. Donc c'est pas une start-up, mais bon, c'était très sympa. Très sympa.
Ah, mais oui, je crois voir qui c'est sur Google Plus, oui.
Voilà, il y a LoQuest aussi. Alors LoQuest, c'est une start-up française hein, qui en fait propose un service, bon c'est un énième réseau social on va dire, c'est un Yahoo Answers en fait, c'est les gens posent des questions mais c'est au niveau local, c'est-à-dire genre bah, c'est quoi le meilleur magasin de chaussures du coin, à quelle heure passe le bus machin, enfin voilà, c'est vraiment un Yahoo Answers mais local.
Quel était le meilleur petit four à le web,
voilà ce genre
toi
de choses,
toi qui les as tous testés Corben, une réponse
Non, le meilleur petit four à le web c'est ce petit moelleux au chocolat là qui est
absolument divin, c'est pas mal.
Et j'ai rencontré un mec qui s'occupe d'un truc qui s'appelle Twang. Alors Twanks en fait c'est une contraction de Twitter et Thanks, merci. Et en fait le mec
Twitter et quoi?
Et Thanks. Je explique pas l'anglais comme toi Patrick, je suis désolé, j'ai un accent indien absolument horrible.
Moi, je comprends pas.
T'as un accent auvergnat.
Ouais, j'ai accent bouillard. Et en fait lui sa boîte, alors après me parlez pas de business model, j'en ai aucune idée, je sais pas comment ils vont vendre leur truc, mais sa boîte lui c'est en gros il agrège tous les merci en fait, le deal c'est que tous les merci qui tombent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et même Discus dans les commentaires de blog, etc. Mm-hmm. Il les agrège et après tu peux voir en fait qui sont les gens qui te suivent, qui te disent le plus merci, à qui t'as dit merci, t'as enfin, voilà ça...
Je sais pas quel sera son business model, mais je trouve ça très très ça... bien.
Non mais en fait l'idée c'est après c'est de faire une espèce de note en fait, c'est comme un classement quand même, clôt,
c'est un clôt du merci.
Tu vois qui t'a dit merci, tu vois qui s'est investi avec toi, qui te supporte, qui t'aide et en fonction de ça tu peux vraiment voir faire émerger des gens intéressants. Bon ça c'était pareil mes amis tunisiens. Medjet aussi, très sympa Medjet, c'est un français qui est basé dans le sud et qui propose en fait des. Enfin qui permet à tous ceux qui veulent faire des mailing lists, lui en fait il propose toute l'infrastructure, c'est-à-dire SMTP, etc. Et on peut envoyer des milliards de mails en passant par chez lui sans être blacklisté par les spams, etc. Parce que bon il a tout ce qu'il faut pour pas être bloqué. Son service est gratuit sur une certaine limite, donc si vous avez des petites newsletters à faire, c'est assez sympa, ça s'appelle Medjet. Et pour finir rapidement, j'ai rencontré, bah c'est des amis en fait, mais ils ont une boîte qui s'appelle Textmaster. D'ailleurs ils font un super concours. Ils ont appelé Million Credit Baby, comme Million Dollar Baby, qui en fait c'est des rédacteurs en fait freelance en gros. Voilà, on achète des crédits, on peut commander un texte sur n'importe quel sujet pour 2000 crédits, etc. au nombre de mots, enfin voilà. Et pour faire du contenu pour des sites ou voilà des journaux, des trucs un peu comme ça, c'est des voilà, ils ont toute une ferme de rédacteurs qui fait que ça et ça marche bien pour eux, ouais, c'est sympa.
Du rédacteur nourri en bon grain.
Il y a différents niveaux en fait. En fait, plus tu payes cher et plus t'as des mecs très très pros.
D'accord.
Sinon, c'est pour des petits trucs, t'as des rédacteurs qui sont bons.
Ouais, ouais,
mais,
ouais.
Voilà, j'ai fait
là,
à peu
là,
près le tour.
Là, c'est une start-up, ça, La Poste.
Ça,
j'ai jamais entendu parler. Hein.
La Poste, ouais, mais bon. Voilà.
Ils décident d'envoyer des emails par papier, c'est ça?
La
c'est
Poste,
ça, avec des timbres.
La Poste font plein de trucs, La Poste.
Je sais, on se moque, mais La Poste est.
Voilà,
la Poste avance.
À peu près le tour. Après, peut-être hier, j'avais rencontré d'autres gens, mais. En grosso modo, j'ai pas eu le temps de faire
Google,
beaucoup.
C'est qui, ça
Google, bah c'est une petite start-up qui démarre spécialisée dans la recherche.
J'y crois pas, ça marchera jamais.
Non, parce qu'il y a déjà Yahoo, quoi. Je veux dire, c'est impossible à détrôner.
Mais non, il y a AltaVista.
Il y a AltaVista, il y a Lycos aussi.
Bah enfin, oui, bon, Lycos.
C'est un peu mort pour eux. Voilà, après, j'ai vu aussi pas mal de systèmes comme Buzzcard où en fait, en gros, le mec propose carrément des cartes de visite où il y a juste un QR code dessus et les gens scannent. Et après, il y a tout ce qui est application, c'est-à-dire que la Buzzcard. À la limite elle est même plus physique, elle est sur le téléphone et on se flash, on se prend en photo les téléphones, etc. et ça rentre direct dans les contacts, ce genre de choses, quoi. Voilà pour le petit tour.
Et globalement sur l'ambiance, tu sens que toi qui est aussi dans ces milieux là les gens sont motivés, c'est la crise, tout le monde est déprimé, comment ça se passe?
Les gens sont motivés parce que
on vient de dire qu'en fait il y a plein d'opportunités et que c'est bon, on y va. Si tu nous dis que l'ambiance est pourrie, on va être déçu, quoi.
Il y a l'ambiance aussi.
Il y a le mec, j'ai rencontré là tout à l'heure un mec qui s'occupe d'un site, s'appelle Quipper. C'est un agrégateur, enfin c'est un truc pour faire un peu de curation, etc. Qui m'a abordé assez vivement assez pas violent parce qu'il est un peu comme ça, il est très expansif.
Oh Corben, salut.
Ouais, mais en gros, bon, il reprochait un peu aux gens qui ont des blogs, qui ont des sites, etc., de pas assez parler des entreprises françaises, de pas assez mettre en avant des fonctionnalités, parce que lui, il est dégoûté de voir que lui ou même d'autres inventent des choses super tech, super à la pointe, qui ont de l'avance, etc. Que presque personne n'en parle, que ça marche pas forcément tout de suite très bien, et que du jour au lendemain Google ou une grosse boîte ou une start-up américaine lance le truc, ça buzz à mort, et nous en France on reprend les news des États-Unis, on en reparle, et du coup lui le truc il l'a pondu il y a 4-5 ans, tu vois, et ça l'écœure un peu de voir que toute la force en France qu'on a, même nous en tant que relais, on la met pas forcément en avant. Alors je vais en a discuté longtemps, mais je vais expliquer grosso modo qu'il y avait trois facteurs en fait pour qu'un truc marche vraiment. C'est déjà la qualité du site, quoi. C'est aussi comment il se bougeait au niveau de la com, qui est vachement important, quoi. C'est, faut que les mecs se déchirent aussi, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut, voilà. Et il y a aussi un grand facteur.
C'est sûr que quand t'es Google, forcément tout le monde va faire attention à ce que tu fais. Donc
ça. Et quand tu pars de zéro, il y a aussi un grand facteur qui.
Bon.
C'était gratuit. Ouais. Ouais, donc quand t'es Google et que tu démarres de zéro, il y a quand tu es une startup et que tu démarres de zéro, le facteur qui est primordial, et c'est absolument dégueulasse, mais c'est ça, c'est qu'il faut connaître du monde en fait. C'est ça, c'est si tu connais pas tel blogueur, tel journaliste ou tel mec dans la jet set, en gros, la jet set du web, pour percer, c'est super chaud, quoi. Mais c'est con, mais c'est ça, quoi.
Vous avez remarqué comme Corben s'est inclus dans la jet set tout à coup.
Non, je me suis pas inclus dans la jet set, justement, j'en parle détaché.
Quand même, il y a un truc, nous qui sommes fans de tech, et je le dis, parfois, on entend tel truc, génial, ouais, c'est une boîte française. Il m'est arrivé deux, trois fois, je dis, ouais, c'est une boîte française, peut-être que tu vas avoir un mouvement de recul. Par contre, j'aurais presque.
C'est un peu comme les films français, en fait. Il y a un peu l'effet film français.
Il y a un a priori. Il y a un a priori.
Dommage.
Et j'aurais tendance à conseiller à une start-up française, et il y en a plein, en fait. On s'aperçoit que c'est des Français derrière, ou c'est un mix, machin, de. À la limite, soit ils le mettent carrément en avant, ils affichent leur Frenchitude et ça devient un argument, soit finalement quelle importance, parce qu'aujourd'hui dans le marché des apps et tout ça, de toute façon tu lances pas une app sans être bilingue, tu vas pas lancer juste une app en français.
C'est important.
Voilà.
C'est vrai que lui, la personne en question parlait d'un problème spécifique qui était le fait que les blogueurs et les sites français ne relaient pas les informations des boîtes françaises. Donc le fait de mettre en avant qu'on est français, c'est un petit peu plus compliqué quand t'es en France. Quoi.
Après, il y a certains, ou soit business model, soit certaines apps qui sont spécifiques à la France aussi. Donc là, tu le mets en avant. Ou alors, c'est la French Touch que tu veux vendre à l'étranger. Mais après, sinon, autant se lancer comme un truc. Regarde, prenez exemple sur les groupes de rock, enfin de musique. Il y a plein de groupes français, Phoenix, etc., Daft Punk, ils affichent pas du tout qu'ils sont français. Bon, on appelle ça la French Touch, mais voilà, pour eux, finalement, quelle importance aujourd'hui.
Non, mais ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement on est en France, on a des bonnes idées, et même si les Français n'en parlent pas, comment, tu vois, c'est un problème. Mais d'un autre côté, par rapport à la Frenchitude, qui est un terme intéressant. Moi, si je prends mon exemple à moi, qui navigue un petit peu dans la sphère des podcasts anglophones.
Les troubles de la mafia, c'est ça,
voilà,
que tu veux dire,
ouais. Voilà. Des podcasts anglophones. Finalement, j'en joue un petit peu aussi, tu vois. Je suis le français qui parfois je sors mon accent français un petit peu idiot, machin, mais c'est vrai que ça donne une identité. Donc, peut-être que si on en joue avec suffisamment d'habileté, ça peut aussi être une force. C'est pas forcément un frein à se lancer. Ça peut. Il y avait d'ailleurs une vidéo qui a été faite.
Il y a un truc qui s'appelle Good Marmite, je crois. Ils ont gagné l'année dernière au concours de start-up. Je sais plus si c'est Good Marmite ou un truc comme ça. Oui. Et ils jouent vachement là-dessus en français, mais. Ils parlent le site en anglais, etc. Mais où les gens
Parlent des petits plats, etc. Il y avait un jeune homme qui a fait une vidéo d'une start-up pour le concours de
Super Marmite. Ouais, je cherchais le nom.
Mais c'est le type, la vidéo qu'on a vue. Je sais pas si vous l'avez vue dans la. Je sais plus de quelle start-up il s'agissait, mais donc il devait, j'imagine, soumettre des vidéos pour se faire sponsoriser pour aller à le web. Et il a joué magnifiquement de l'aspect français. c'est un type qui est, je crois, à Londres. En tout cas, il a un accent plutôt anglais, mais c'est un Français, en fait, qui parle très, très bien anglais. Mais du coup, il a joué avec l'accent français, le truc Frenchy et les stéréotypes français. C'était hilarant. Et du coup, il est vachement sorti du lot. Donc, ça peut aussi être une force.
Tu sors du lot aux États-Unis, mais en France, tu sors... Enfin, alors,
non, c'est sûr, mais ça peut aider, quoi.
Alors, par exemple, Neyo, là, tu vois, il me disait qu'ils avaient eu des articles sur TechCrunch, Lifehacker, enfin, tous les sites américains, même partout dans le monde, en fait, même dans des pays genre la Birmanie ou je sais pas quoi.
Sauf la France.
Ils en ont pas eu en France. Et c'est une boîte française qui est à Montpellier, quoi. Donc,
tu crois que les blogueurs, vous avez quand même peut-être quelque chose à faire de ce côté-là?
Je pense,
être plus ouvert.
Moi, le truc, c'est que moi, je marche au coup de cœur. Donc, des fois, il y a des startups dont je parle, des Français, etc. Parce que j'ai bien accroché, je les ai rencontrés, tout ça. Donc, c'est sympa. Après, c'est pas le cœur de mon site, c'est pas mes sujets préférés, etc. Mais c'est vrai que, bon, des mecs comme Eric Dupin, Presse Citron ou même TechCrunch France.
Il est là aujourd'hui d'ailleurs.
Ouais, il traîne près des petits fours là-bas.
D'accord.
C'est pas bien d'annoncer ses petits camarades.
Oh, j'irai le rejoindre après. Ces mecs-là qui parlent quand même pas mal de start-up, mais pas que, mais bon, ça manquait un peu, ouais, effectivement. Avec TechCrunch, ils le faisaient un peu.
Ouais, mais TechCrunch est plus. TechCrunch France.
Ils faisaient un peu, mais bon, ça.
Mais il y a peut-être un truc à faire. Si vous êtes, tiens, par exemple, vous, fidèle auditeur, poditeur et visionneur, si vous êtes un petit peu intéressé par ce milieu et que vous voulez lancer une sorte de centre nerveux de la start-up et de la technologie française en France, il y a une place à prendre, visiblement. Donc, pourquoi pas devenir...
French Web le fait aussi un peu. Enfin, tout le monde le fait un petit peu. Mais
oui,
c'est
un petit
pas...
peu, mais concentré sur ce marché, vraiment. Ouais, parce que TechCrunch, finalement, c'est les start-up, c'est hyper spécifique, quoi. Mashable a commencé comme ça aussi. Ouais. C'était social, mais vraiment start-up. Et TechCrunch n'a commencé que comme ça. Donc, il y a quelque chose à faire.
Et nous, on devrait peut-être lancer application chargée. Podcast
upload en français.
Oui, application chargée. Donc voilà, le podcast sur les applications franco.
Okay, il nous reste 4 minutes.
Oui, alors j'aimerais conclure et juste dire. Alors donc là, on a fait les deux journées du web. Je sais pas si on aura une troisième parce que toi, Patrick, tu vas pas être là demain.
Moi, je suis pas là.
Toi, Corben, tu seras
le
là.
Le matin seulement. Ouais.
Ouais, je sais pas si on aura une troisième. Donc, on va faire la conclusion du web. Vous dire aussi, quand même, qu'il y a d'autres modules que vous allez retrouver sur NoWatch, dont ce qu'on a tourné ce matin. Alors, je sais pas si ça sera dispo en début de semaine ou en fin de cette semaine, mais sur le Surface 2 et sur le miroir Kinect. Alors, j'en dis pas plus. Et puis, il y aura également un spécial Zapcast où on va recevoir quelques podcasteurs qui traînent ici. On vous en dit pas plus, mais ça, vous retrouverez tout ça sur NoWatch. Et alors, on va donner les conclusions du web. Messieurs, les webs cette année, grand cru.
Ouais, très grand cru. Ça s'améliore d'année en année, quoi. Il y a toujours des râleurs, il y a toujours des bugs aussi, il y a toujours plein de trucs, mais franchement, c'est énorme, quoi. C'est un truc vraiment génial. Parfait. Enfin, moi, j'aime bien.
Personnellement, je m'y suis. C'était beaucoup plus amusant et intéressant que je m'y attendais. Généralement, on est un petit peu blasé, quoi. On va dans ce genre de conférence, on est un petit peu j'y vais pour le principe, je vais voir ce qui se passe, mais parfois on est un peu blasé. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris. Je dis pas que moi j'étais forcément hyper blasé, mais on a l'impression de déjà savoir ce qu'on va y trouver. Et en fait, j'ai été agréablement surpris par la qualité des intervenants, la qualité de la conférence et l'énergie qu'on y a trouvée. Je pense qu'on vous en a fait passer un petit peu à travers ces émissions. Donc voilà, très très bonne surprise. J'ai hâte de voir ce que ça donnera l'année prochaine. Comme je le disais tout à l'heure, un cocorico doublé d'un grand félicitations à Loïc et surtout à Géraldine Lemeur qui organise tout ça. Et toi donc, pour conclure?
Bah écoute, moi c'était mon premier Le Web. C'est vrai que c'est ce que je disais hier. Bah ouais, je suis plus puceau du web.
Plus puceau du web, c'est bien.
J'ai ressenti une grande énergie.
Bon, t'as ressenti une grande énergie, d'accord. Ça... On nous dira pas où.
Non, honnêtement, ça fait du bien. C'est vrai que on peut le dire, dans une époque où les choses vont plutôt mal, enfin les nouvelles sont pas bonnes, machin et tout. Ouais. Là, on a senti du positivisme, mais pas forcé, hein, c'était pas de la méthode Coué. Il y a des gens qui se donnent, c'était plutôt positif.
Ce que j'aime bien aussi, c'est que toute l'année, on est devant nos ordi, on taffe comme des malades et tout, et avoir un endroit où on peut se retrouver tous ensemble, professionnels du web, c'est vraiment extraordinaire.
C'était vraiment super sympa.
C'est la récréation, quoi.
Et tu vois, de voir Corben en vrai, c'est toujours un moment émouvant.
Voilà, je te signe un autographe. Pas de souci. Ah,
bah écoute, il n'y a pas de problème. Je te donnerai ma carte de visite. J'ai l'impression que t'en manques.
Voilà.
Bon, bah en tout cas, merci Corben.
Merci à vous.
Merci Patrick. Merci Jérôme. On espère, bah, on sera là, hein, Web 12. Oh, bah oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, on sera là. Jusqu'au bout. Absolument. Eh ben, merci de nous avoir regardés. Et puis, à ciao tout le monde.
Ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.